Excusez-moi. Désolé de vous déranger, grande reine des xénomorphes, mais j'ai une question importante à vous poser. Attendez, je vais bien vous la demander.
Sans pas long.
Ah, bon. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous avez pas regardé Alien Resurrection? Oh. Revisionnement, c'est un podcast dans lequel, en 30 minutes ou moins, j'essaie de vous convaincre de regarder une nouvelle fois un film qui est plus ou moins bien perçu dans la culture populaire. Tous mes arguments sont prêts et j'ai bien hâte de voir si je vais réussir mon coup. Salut tout le monde et bienvenue à Revisionnement. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes maintenant à l'écoute d'un épisode que j'avais vraiment très hâte de produire et qui met en vedette un film que j'affectionne beaucoup. Et oui, je vous révèle qu'Alien Resurrection est un de ces films qui est si réconfortant pour moi à chaque fois que je le visionne, et ce, depuis la toute première fois que je l'ai vu un certain soir de l'hiver 1997 au défunt cinéma Béré. C'est principalement dû à beaucoup de nostalgie associée aux très bons souvenirs que j'ai des circonstances où j'ai regardé ce film en compagnie de mon père, de mes très bons amis, et même d'anciennes copines que j'initiais au cinéma d'horreur. Au fil des années où mes goûts et mes connaissances sur le cinéma se sont développés, j'ai appris à apprécier d'écoute en écoute ce mal-aimé de la série Alien, en m'apercevant du brio de chacun des éléments qui les constituent. Et après beaucoup d'analyses introspectives, j'ai pas pu faire autrement que d'arriver à la conclusion que c'est très loin d'être un mauvais film, et que c'est même l'un des épisodes les plus intéressants de cette série de science-fiction culte. Tellement que j'en serai un fervent défenseur jusqu'à la fin de mes jours. Par exemple, je compte plus le nombre de débats musclés que j'ai eu dans mes cours de cinéma au cégep et à l'université, avec des nerds voulant se donner un tuteur supérieur en faisant l'erreur de traîner dans la boîte Alien Resurrection en ma présence. Laissez-moi vous dire qu'il a parfois fallu que des profs nous interrompent avant que ça dégénère en bagarre dans la ruelle après le cours. Donc, mes chers auditeurs et auditrices, soyez bien assurés que je vais championner dans vos oreilles ce film d'une manière où je serai littéralement inarrêtable. Je me sens déjà plus que d'attaque pour vous donner envie au fil des prochaines minutes de revisionner ce quatrième opus de la série Alien.
Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas, les vrais monstres, mais il y en a.
Je dois obligatoirement commencer en vous donnant un peu de contexte sur où en étaient les choses à l'époque concernant la série Alien. La sortie d'Alien 3 en 1992 a été un flop commercial et critique causé par l'ingérence maladroite des producteurs et une gestion catastrophique de toutes les étapes de conception et de production du film. Quelques années après cet échec, le studio 20th Century Fox voulait à tout prix redorer le blason de l'une de ses propriétés intellectuelles les plus rentables au box-office en produisant une autre suite. Leur but était d'insuffler une énergie fraîche et vigoureuse à la série, de remettre l'accent en priorité sur le divertissement des spectateurs tout en évitant de commettre les erreurs qui ont royalement plombé Alien 3 autant devant que derrière les caméras. La première étape de ce processus de résurrection était de trouver quelqu'un pour pondre une histoire originale. Après avoir fait le tour des scénaristes les plus hot d'Hollywood pour concevoir le scénario de ce nouveau Alien, Fox a arrêté son choix sur le très prometteur Joss Whedon.
Oui, je sais. Je sais, pas trop fort. Oui, je sais. Oui.
Moi, je disais Boo-ums.
C'était bien avant que soient récemment révélées au grand jour des accusations et des témoignages qu'il dépeint comme étant un sacré trou de cul toxique envers ses collaborateurs et plusieurs acteurs et actrices qu'il a dirigés à la télé et au cinéma. Ça, ce sont des comportements que le podcast que vous écoutez en ce moment ne cautionne pas du tout. Ceci étant dit, Whedon avait reçu des producteurs le mandat assez casse-gueule de concevoir une nouvelle histoire contenant chacun des éléments reconnaissables de la série Alien, tout en contournant quelques pièges scénaristiques semés par la fin du précédent film. L'exemple le plus évident est la mort définitive dans les dernières minutes d'Alien 3 d'Ellen Ripley, l'héroïne de la série jouée depuis 1979 par la toujours fantastique Sigourney Weaver. Pour régler ce gros pépin, Whedon se devait de créer un subterfuge plus ou moins crédible pour expliquer le retour de Ripley. En prime, il devait faire de ce nouveau Alien un film de science-fiction et d'action dont les spectateurs sortiraient du visionnement satisfaits pour générer assez de recettes au guichet dans le but de faire d'autres suites dans les années suivantes. Après quelques mois de travail, Joss Whedon a présenté la version finale de son scénario qui encapsulait à peu près 103 pages tout ce qui lui avait été demandé de concevoir, et ce, à la grande satisfaction des producteurs. Maintenant l'histoire en place, il fallait bien trouver quelqu'un pour diriger tout ça derrière la caméra. La Fox a poursuivi sa tradition de donner les rênes d'un film d'Alien à un réalisateur plus ou moins au début d'une carrière prometteuse, avec un flair pour créer des visuels mémorables et ayant une certaine expérience dans le cinéma de genre. Après des recherches minutieuses, ils ont trouvé leur homme. Donc, pour succéder à Sir Ridley Scott, à James Cameron et à David Fincher, les producteurs ont arrêté leur choix sur un metteur en scène provenant de pas les États-Unis. Mais plutôt de la contrée, de la Tour Eiffel, du Paris Saint-Germain et du Cassoulet, en la personne de Jean-Pierre Jeunet. Avant de se lancer dans sa première expérience hollywoodienne, Jeunet avait co-réalisé avec son partenaire Marc Caro beaucoup de courts-métrages fantaisistes ainsi que les longs-métrages Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, qui sont devenus des films cultes en France depuis leur sortie dans les années 90. Cependant, beaucoup d'observateurs et de fans de ce duo de réalisateurs n'ont pas tardé à mal réagir à cette décision. C'est que, sûrement par ignorance que les deux hommes travaillaient exclusivement en tandem et en voulant sûrement éviter de payer deux cachets, la 20th Century Fox a offert la réalisation d'Alien Resurrection qu'à Jeunet. Depuis ce temps, les deux réalisateurs n'ont malheureusement plus co-réalisé de films ensemble, mais contrairement à la croyance populaire, il n'y a aucun froid ni conflit personnel ou professionnel entre les deux hommes. Ils sont encore de très bons copains. Et si vous voulez mon avis, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Jeunet. Réaliser en solo un gros film de studio américain lui a donné l'expérience et l'assurance nécessaires en revenant en France pour faire cavalier seul derrière ses caméras et nous montrer ses nouvelles histoires qui ont remporté un grand succès grâce à l'unicité de sa mise en scène. L'exemple le plus évident est bien sûr l'ultra populaire Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui avait fait un tabac à sa sortie partout où il a été présenté. Ça a aussi permis à Jeunet de s'affirmer pour, selon moi, devenir au cinéma fantaisiste français ce que Terry Gilliam est au cinéma américain et britannique. Seul aux commandes de la mise en scène, Jeunet n'a pas tardé à montrer aux producteurs, à son équipe technique et aux acteurs qu'il a choisi qu'il était bien l'homme de la situation pour mener la production du quatrième film d'Alien à bon port. Son esthétique ultra stylisée est présente dans chaque minute de ce film. Tous les trucs qu'il a dans son arsenal pour visuellement capter notre attention sont là. Vous aurez tôt fait de remarquer sa palette de couleurs qui donne au décor une dimension où le réel se transforme en un genre de conte de fées macabre pour adultes. Il y a aussi ses mouvements de caméra dynamique en vitesse accélérée ou parfois ralentie pour accentuer les émotions et des sensations désagréables ressenties par les personnages. Et que dire de son montage dynamique et parfois même atypique dans l'enchaînement des plans pour donner des effets saisissants à certaines scènes qu'il nécessite. Bref, Jeunet est très loin d'avoir l'air d'une recrue. Le français n'a pas non plus lésiné sur la violence et les moments chocs. Le gore et l'horreur corporelle, qui sont deux des marques de commerce de la série Alien, sont de retour en grande pompe et crinqués au niveau supérieur. Le sang, les cervelles et les boyaux humains giclent, explosent et implosent copieusement pour notre plus grand plaisir.
Cet homme-là, il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions?
Qui êtes-vous?
Je suis la mère du monstre.
Vous savez quoi, chers auditeurs? Je crois que je vais dévier de mon ordre de sujet pour plonger immédiatement dans l'aspect juteux que vous attendez tous avec impatience. Si on abordait enfin ces créatures extraterrestres meurtrières qu'on appelle les xénomorphes, ou comme tout le monde les surnomme depuis si longtemps, les aliens. Je prétends que les xénomorphes n'ont jamais aussi bien paru que dans Alien Resurrection. Ça, c'est même en comptant les films beaucoup plus récents dans lesquels ils apparaissent comme Alien vs Predator et les deux antépisodes réalisés récemment par Ridley Scott. Ici, les créatures animatroniques sont utilisées à profusion devant la caméra et elles sont au zénith de l'art de leur fabrication. Les concepteurs et artistes qui en sont responsables ont travaillé avec une passion incroyable pour donner aux marionnettes animatroniques un look plus vrai que nature, en leur ajoutant des nouvelles amplitudes de caractéristiques faciales qu'elles n'avaient pas avant et des effets physiques tangibles pour fermement nous faire croire que ces monstres existent pour vrai. Il y a de quoi faire verser des larmes de fierté à H.R. Giger en voyant jusqu'où ont évolué ses dessins conceptuels depuis les années 70. En plus, pendant le tournage, les techniciens ne se sont pas du tout gênés pour utiliser en quantité incalculable des litres et des litres de gel KY pour bien faire baver et suinter les xénomorphes, les rendant encore plus visqueux et gluants que 10 tournages de films pour adultes réunis.
Docteur,
Cette chose qui a tué mon pote, c'est ça tes saloperies d'expérience?
Oui.
Combien y en a d'autres? Combien y en a, bordel?
Il y en a 12.
Il y en aura bien plus. Alors, avec qui il faut que je baise si je veux partir d'ici?
En plus, les concepteurs ont même eu le grand plaisir de concevoir un type de xénomorphe encore jamais vu dans la série et qui débarque dans le troisième acte du film. Croyez-moi quand je vous dis que vous voudrez pas manquer une seule seconde de son apparition aussi grotesque que mémorable. Ce que j'aime bien aussi est l'utilisation parcimonieuse des images de synthèse pour générer les créatures artificiellement. Ça se produit heureusement juste dans les plans où on voit les xénomorphes du crâne jusqu'à la pointe de leur queue pour montrer les mouvements atypiques de leurs déplacements dans les différents environnements. Bref, la sage décision a été prise d'employer les images générées par ordinateur pour seulement accomplir ce que les marionnettes animatroniques n'étaient pas en mesure de faire. Le dernier élément mis en place pour leur donner entièrement vie est une conception sonore profondément travaillée pour rendre leur présence à l'écran viscéralement animale et agressive. Un des meilleurs exemples de ce que je veux dire se trouve dans une scène sur laquelle je trippe particulièrement, où on assiste à la façon brutale et violente qu'ont trouvé les créatures de s'évader de la cellule qui les retient prisonniers. C'est pas mêlant, j'en ai des frissons juste à y penser, c'est vraiment écœurant pour les oreilles.
Ce qu'il fait est illégal, il est en train de travailler sur une espèce de
monstre.
Il élève des créatures mortellement dangereuses, et si on les relâche dans la nature, en comparaison, la peste et la rage seraient de la pisse de nouveau-nés.
La ferme!
Pour clore le sujet, il faut que je prenne une minute pour parler de l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire la fameuse scène de poursuite sous-marine où les personnages principaux sont pris en chasse, dans un endroit inondé, par des xénomorphes qui se déplacent sous l'eau avec une agilité digne des meilleurs dauphins de Marineland. C'est vraiment con à dire, mais beaucoup de fans se moquent ouvertement de cette scène-là parce qu'ils trouvent que c'est une insulte à cette série de films de voir les aliens se déplacer dans un nouvel environnement qui est pas un corridor sombre. Mais moi, je me plais à rétorquer à ces puristes-là que cette scène-là, elle est vraiment bien réalisée et qu'elle est tout aussi terrifiante que n'importe quelle scène de suspense et d'action d'Alien 1, 2 et 3. C'est pas mêlant, les dangers sont partout dans cette séquence-là pour tenir l'attention et l'anxiété des spectateurs au niveau maximum. Premièrement, il y a le risque à tout moment que les personnages manquent d'air et se noient. En plus des deux xénomorphes qui sont à leur trou sous l'eau en faisant leur meilleure imitation de Bruce le requin dans Jaws. En prime, on découvre que les xénomorphes sont aussi des créatures amphibiennes, ce qui les rend hautement mortels dans tous les environnements possibles. Cette nouvelle caractéristique qu'on ignorait d'eux en font officiellement les prédateurs extraterrestres les plus fatals de l'histoire du cinéma. Comme le disait Ian Holm dans Alien en 1979, ils sont l'organisme parfait.
Comment vous m'avez...
Comment? On t'a créé?
Oui.
Un long travail. À partir de ton sang congelé et récupéré sur la planète Fiorina 16, là où tu es morte. On t'a reconstituée. On t'a clonée.
Au niveau des actrices et acteurs qui tiennent l'affiche dans ce film, il était absolument impensable à l'époque de faire une nouvelle suite à Alien sans que l'incomparable Sigourney Weaver revienne incarner son rôle fétiche d'Ellen Ripley. Et ça, même si ce personnage n'a pas survécu aux événements du film précédent. Mais ça, c'est juste un problème temporaire que se charge de régler rapidement l'une de nos héroïnes préférées. Dans ce film, Sigourney Weaver aborde un nouveau défi, car elle ne joue plus la même Ripley qu'avant. Même si elle a l'apparence du personnage, cette Ripley est un clone hybridé avec des gènes de xénomorphe. En passant, ça c'est pas du tout un divulgacheur que je vous dis là, parce que c'est révélé 2 minutes après que le film ait commencé. Mais que les puristes soient rassurés, même si cette création génétique possède l'instinct animal et la force des xénomorphes, on tarde pas à retrouver la présence proéminente, courageuse et sécurisante typique de la Ripley des précédents opus. Au passage, Weaver en profite même pour inclure un maniérisme étonnamment lascif à la nouvelle version de son personnage. En tout cas, vous verrez ce que je veux dire quand vous regarderez le film. Une autre particularité d'Alien Resurrection est l'inclusion d'une deuxième co-vedette féminine ayant quasiment autant d'importance que Ripley. C'est pour ça qu'il faut pas que vous soyez surpris en voyant l'excellente Winona Ryder interpréter durant tout le film une contrebandière de l'espace appelée Call. Et c'est pas pour rien qu'une actrice très sélective dans les rôles qu'elle accepte comme Lee Ryder a rapidement sauté sur l'occasion de jouer ce personnage. Vous verrez que Call est une protagoniste avec de nombreuses nuances et quelques secrets qui vous seront graduellement révélés pour vous faire vous apercevoir que ce nouveau personnage a tout à fait sa place aux côtés des autres vaillantes femmes de la série Alien.
Qui êtes-vous?
Ripley Ellen, lieutenant de première classe.
Hélène Ripley est morte il y a 200 ans. Je peux tout arrêter. La souffrance, ce cauchemar, cette horreur, je peux t'arracher à ça.
Vraiment? Moi, je pourrais t'avoir.
Un autre des gros problèmes d'Alien 3 est aussi réglé dans Alien Resurrection. C'est que dans Alien 3, la majorité des personnages secondaires étaient des hommes blancs, aux cheveux rasés, qui se ressemblaient tous. Ça faisait en sorte que, d'une scène à l'autre, on savait pas vraiment qui était qui, et ça nous empêchait de nous attacher à eux et de bien distinguer ceux qui mouraient pendant les attaques du xénomorphe. Ici, Jean-Pierre Jeunesse s'est assuré que ça se reproduise pas dans son film. Les personnages centraux de contrebandiers de l'espace, de scientifiques et de militaires sont ici tous individuellement reconnaissables de par leur apparence distincte et leur personnalité bien à eux. Pour les interpréter, Jeunesse s'est offert un sacré casting. Il a plutôt opté pour la décision géniale de confier les rôles du film à une pléiade d'acteurs spécialisés dans les rôles de composition.
Écoute, petit, je te donne mon code d'autorisation. C'est S-U-C-E-M-O-I.
Excusez-moi, vous pouvez répéter?
Petit con.
Parmi eux, vous reconnaîtrez rapidement Ron Perlman, Michael Wincott, Dan Hedaya, Brad Dourif, Leland Orser, G.E. Freeman et Raymond Cruz. C'est tous des acteurs que vous avez vus à maintes reprises au cinéma et à la télé jouer une grande gamme de rôles dans lesquels ils disparaissent complètement pour rendre leur personnage unique et mémorable. Dans ce film d'Alien dans lequel ils se retrouvent tous, ils profitent de l'énergie de la chimie présente entre eux pour donner une interprétation à la hauteur de leur grand talent dans chaque scène. Pour mettre la cerise sur son sundae d'acteur, Jeunet a même confié le rôle d'un personnage secondaire important à son porte-bonheur qui est l'acteur français Dominique Pinon, à qui il a donné des rôles dans tous ses films. Chers auditeurs, vous reconnaîtrez dès que vous la verrez la bouille si unique et sympathique de Dominique Pinon. Je vous prédis que son personnage nommé Vreese deviendra votre préféré bien avant que le film se termine.
Vous attendiez qui les mecs, le Père Noël?
Là je m'aperçois que je vous parle de plein d'aspects différents depuis déjà plusieurs minutes. Alors j'aimerais vous offrir une brève synthèse de toutes les maudites bonnes raisons de revisionner Alien Resurrection. Pour réenclencher votre intérêt pour la série Alien, si le troisième film vous a laissé sur votre faim, elle a droit à une deuxième chance de finir sur une note divertissante où se retrouvent toutes ces marques de commerce exécutées à la sauce hollywoodienne excessive de la fin des années 90. Pour assister à la chimie unique qui opère entre les actrices de premier ordre et les spécialistes en rôle de composition pour rendre tous les personnages uniques et mémorables. Pour voir de vos propres yeux la conception hallucinante de toutes les marionnettes animatroniques qui vous feront croire que les xénomorphes existent réellement. Pour apprécier la mise en scène visuellement survitaminée et pleine d'assurance de Jean-Pierre Jeunet. Pour obtenir, en à peine 1h45, tout le divertissement que vous espérez avoir en regardant un film de science-fiction et d'horreur. Je vous garantis que votre attention sera captée tout le long du film sans que vous ayez envie de consulter votre téléphone pour voir si vous avez des matchs sur Tinder. Si j'ai bien réussi ma mission de vous donner envie de regarder Alien Resurrection pour la première fois ou de le revisionner pour voir si vous y voyez les mêmes mérites que moi, j'aimerais vous indiquer les endroits où vous pouvez vous en dénicher une copie. En version streaming, vous pouvez le trouver en compagnie de tous les autres titres de la saga Alien en HD à part de ça sur l'appli Disney+. iTunes vous offre aussi la possibilité d'en faire la location pour 4 petits dollars. Pour les collectionneurs de versions physiques et les complétistes, je recommande chaudement le tout nouveau coffret Blu-ray qui rassemble les 4 films originaux de la série ainsi que les 2 petits nouveaux de Ridley Scott que sont Prometheus et Alien Covenant. Ce très beau coffret est facilement trouvable dans les magasins à grande surface pour environ 35 à 40 $ et parfois moins. Et voilà, c'est maintenant la fin de notre épisode. Comme la dernière fois, je vais vous laisser avec un petit indice du film qui sera le sujet de notre prochain revisionnement. Chers auditeurs, je vais vous amener dans une balade qui va vous faire revenir à l'époque où le célèbre personnage de James Bond était interprété par nul autre que le suave et si distingué Roger Moore. On va revisiter une de ses plus célèbres missions qui le fera passer par les plus beaux endroits du monde tout en lui faisant faire un petit détour dans l'espace. C'était Sébastien Bourget et on se retrouve au prochain épisode de Revisionnement.